Chaud devant, un Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée.
Jésus au dessert.
Et comme plat principal,
qui est saint. Salut Marc.
Salut Samuel.
Alors, tu vois, cette histoire de destruction dont on parlait la dernière fois, elle trouve une explication claire si on se tourne vers la sainteté.
Si on se tourne vers la sainteté, qu'est-ce que tu veux dire?
Le mieux serait encore de prendre un exemple tiré de la Bible.
Ouais, d'accord. Et quel exemple?
On va se tourner vers Moïse et le livre des Nombres au chapitre 25.
Israël demeurait à Sittin, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël.
L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël.
Bah dis donc, c'est quand même un peu barbare. Hein.
Qu'est-ce qui est barbare? D'obéir à Dieu et de suivre ses commandements? Ou de mener une vie de débauche avec des peuples qui offrent des sacrifices à des divinités qui tuent les hommes?
Non, mais ce qui me semble barbare, c'est de dire que parce que certains désobéissent, il faut les tuer.
Pourtant, tu vois bien ce qui se passe. Juste après le meurtre de l'homme, la plaie s'arrête. Mais surtout, lisons la suite.
L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël.
C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Tu vois Marc, qu'est-ce qui nous est dit ici en fait? Que le geste radical de Phinéas a été salutaire pour le peuple. Si ce meurtre n'avait pas été commis, le peuple aurait souffert bien plus. La plaie ne se serait pas arrêtée.
Ouais, mais Samuel, je comprends que ça ait pu arrêter le problème, que suite à cette décision, le peuple d'Israël ait été dissuadé de continuer à se tourner vers d'autres divinités. Mais enfin, quand même, faut pas forcément recourir à des moyens si radicaux pour rester fidèle à Dieu.
Mais à ton avis, Marc, l'amour de Dieu, penses-tu que lui ne soit pas aussi radical?
Comment ça?
Eh bien, quand Dieu décide d'aimer, il aime totalement, il aime sans mesure, il aime à la mesure de l'infini. Il aime de manière absolue. Dans la Bible, on dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne tolère pas le mal. La relation que Dieu souhaite avoir avec les hommes est une relation de pureté radicale, de fidélité totale. Mais peut-être devrions-nous nous tourner vers un autre passage qui va éclairer ce point de vue. Par exemple, si on prend le prophète Isaïe au chapitre 6.
Alors, prophète Isaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler.
Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi !» Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Tu vois, Marc, je trouve que ce passage est très parlant. Lorsque la sainteté de Dieu est proclamée par les anges, le prophète Isaïe est pris de panique.
Bah ouais, on dirait que face à la sainteté, il se sent anéanti. D'ailleurs, il le dit clairement, « Malheur à moi, je suis perdu, mes lèvres sont impures, et celles de mon peuple aussi. »
Bon, alors si on s'arrête là, on pourrait se dire que face à Dieu, on ne peut rien faire. Il est pur, il est saint, et nous, non. Donc, jamais nous ne pourrons être à sa hauteur. Et pourtant, tout de suite, un séraphin arrive pour rendre pur Isaïe. Mais le plus étonnant, c'est que juste après, le Seigneur, il dit « Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi ?» Et c'est alors qu'Isaïe, qui avait dit qu'il était impur, voilà qu'il dit maintenant « Me voici, envoie-moi. »
Ça veut donc dire que Dieu peut rendre purs les hommes. Il peut choisir certaines personnes pour s'en servir comme des instruments, pour faire grandir les hommes en sainteté.
Et oui, et c'est ce qui s'est passé avec le peuple lorsqu'il allait vers d'autres divinités. Le geste de finesse est interprété comme un sursaut salvateur, guidé par l'Esprit de Dieu qui arrête l'hémorragie de l'impureté parmi le peuple. Le programme de sainteté que Dieu propose à l'homme est total. Dieu est miséricordieux, il est prêt à pardonner le pécheur. Ça n'est pas la miséricorde de Dieu qu'il faut mettre en doute, mais la corruption de notre cœur.
Bon d'accord, nous sommes pécheurs, mais nous pouvons compter sur Dieu pour nous purifier. Mais quelle ligne de conduite avoir ensuite? Comment marcher dans les voies de Dieu?
Eh bien Marc, n'est-ce pas là tout le sujet de la Bible? La Bible n'est-elle pas l'Écriture sainte, la bonne nouvelle qui nous permet de connaître Dieu et son plan pour nous? Qu'a fait l'Éternel dans le désert? Il a donné la Torah à Moïse, et c'est quoi la Torah?
Bah c'est la loi, l'enseignement de Dieu.
Voilà, Dieu nous livre un programme de sainteté dans la Torah. Dieu nous appelle à lui ressembler.
Ah oui, comme dans le passage de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et puis ensuite, dans le livre du Lévitique, avant que Dieu donne les commandements, il dit « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu ».
Voilà, c'est ça. Nous avons été créés pour manifester la présence créatrice et bénéfique de Dieu. Et lorsque Dieu se choisit un peuple, il décide de l'éduquer, de l'enseigner, en lui donnant des règles de sainteté. Certaines peuvent nous sembler obscures et incompréhensibles, voire dépassées. Mais c'est là qu'il faut se positionner. Si certaines choses peuvent évoluer d'un point de vue culturel, il s'agit de ne pas remettre en question pour autant les exigences de sainteté que Dieu nous donne.
La sainteté, être saint, suivre les commandements pour parvenir à la sainteté. D'accord, d'accord, mais Dieu, on le voit pas. Alors comment le suivre? Comment lui ressembler? C'est un peu abstrait tout ça, non?
Alors qu'est-ce que tu voudrais savoir?
Eh ben, véritablement, qui est saint? Qui est saint pour qu'on puisse suivre son exemple?
Eh bien, restons encore dans la Bible et lisons un passage de saint Paul, à la fin de l'Épître aux Romains. « Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. » Et si tu veux bien lire le passage aussi dans l'Épître aux Corinthiens.
« Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Archaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. »
Et on voit aussi au début de la lettre, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre.
En fait, tu veux me montrer que les premiers chrétiens étaient appelés des saints?
Oui, tout à fait. Les premiers chrétiens s'appelaient les saints.
C'est pas un peu orgueilleux comme terme?
Eh bien, pas tout à fait. Si on lit dans la même lettre aux Corinthiens que Paul appelle les saints, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?
Ouais, donc Paul les appelle des saints, mais en même temps, c'est pas brillant ce qu'ils font, ces saints.
Et t'as remarqué, Paul termine en disant « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Autrement dit, il leur rappelle l'exigence de sainteté et le risque que toute la communauté s'égare si un seul membre tombe dans l'erreur et le péché.
Ouais, d'accord. Mais enfin bon, je comprends plus tellement. Les chrétiens, ils sont saints ou ils sont pas saints?
T'as la réponse dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, là c'est un fait. C'est une chose déjà accomplie. Jésus nous a sauvés de tout péché, nous sommes saints, tous. Mais cependant, nous sommes également appelés à devenir saints. Nous sommes en chemin.
Donc Jésus-Christ nous offrirait une porte de sortie.
Une planche de salut, tu devrais dire. Autrefois, Avant la venue de Jésus, la religion juive, nous l'avons vu, mettait une séparation stricte entre le monde de Dieu, complètement saint et inatteignable, et le monde des hommes, enclin au mal et au péché. Les rites et les prières permettaient de réparer les liens brisés entre Dieu et les hommes. C'est le rôle de la religion au sens strict. Le mot « religion » veut dire « relier ». Et pour les chrétiens, la venue de Dieu sur la terre, en la personne de Jésus-Christ, change radicalement la donne. En entrant dans le monde, en y vivant, en y mourant, Jésus sanctifie toute la terre. Il rend toute la terre sainte. Et toute la terre est appelée à être sanctifiée. Le moyen que Dieu choisit pour ça, Jésus-Christ, mort et ressuscité.
Donc, en regardant Jésus, en suivant son exemple, on peut atteindre la sainteté. On peut être saint, comme Dieu est saint.
Oui, mais pas seulement en suivant son exemple. Jésus n'est pas simplement un modèle d'homme droit ou de prophète inspiré qu'il faudrait imiter. Nous, les chrétiens, nous faisons le choix d'aller au-delà de ça, de vivre l'expérience même que Jésus a vécue, être plongé dans la mort et la résurrection.
Oui, c'est un peu mystérieux, ça, pour moi.
Ça n'est pas étonnant, c'est justement ça le cœur du mystère chrétien.
Mais alors, ça veut dire que toi et moi, nous sommes saints.
Seul Dieu est saint.
Bah, je croyais que...
Seul Dieu est saint. Mais Jésus a été reconnu comme le Fils de Dieu, et Dieu lui-même. Et il a été reconnu comme le Saint de Dieu. Et oui, nous sommes saints, parce que par notre baptême, notre immersion dans la mort et la résurrection de Jésus, nous avons revêtu le Christ. Nous sommes des créatures nouvelles, comme dit saint Paul.
Donc nous n'avons plus rien à faire.
Nous avons à conserver cette dignité d'enfant de Dieu, à ne pas contrister l'Esprit Saint. L'exigence de sainteté est toujours vivante pour les chrétiens. La seule différence, c'est que nous avons conscience que toute sainteté vient de Dieu et que l'aboutissement de la sainteté nous mènera à Dieu.
Samuel ?
Oui ?
Je me posais une question quand même.
Laquelle ?
Est-ce qu'on peut être à la fois un saint et un meurtrier ?
Ça me paraît difficile, mais pourquoi tu me demandes ça ?
Eh bien, tu sais, le roi David, tu vois, le roi David, c'est un homme de Dieu. Bah, pourtant...
C'était Moïse en entrée, Jésus au dessert, une émission dans la dynamique du Festival de la Parole, présenté par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine.
Le roi David était-il un meurtrier ?